Bonjour David, bonjour à tous. La cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que 4 réserves, dont celle très contestée de Sainte-Soline, illégales car menaçant la survie d'une espèce protégée, l'outarde canepetière. L'eau du robinet coûtera plus cher au nord de Sévrières l'année prochaine, qui auront également à subir une hausse de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Toutes les explications dans ce journal. L'agglo de B confirme sa volonté de soutenir Mayotte après le passage dévastateur du cyclone, même si les modalités n'ont pas encore été définies. Les 120 écoliers de l'orchestre Demos du Touarcé viennent de prendre possession de leur instrument. C'est le début d'une belle aventure de 3 ans. Le Festival des Solidarités en Nord-de-Sèvre 2024 se clôture ce soir à Bressuire avec une représentation de la pièce Sans négrier par Claude Lalue. Et puis nous parlerons de course à pied dans ce journal avec la 36e édition de la corrida de Courlet. C'est ce samedi. Quant à la météo, les éclaircies seront les plus fortes cet après-midi. La cour administrative d'appel a donc rendu sa décision hier dans le dossier des réserves de substitution. Dans leur jugement, les magistrats bordelais estiment que les 4 réserves de Sainte-Soline, Mougon et Messé dans les Deux-Sèvres ainsi que Saint-Sauvent dans la Vienne sont illégales en l'absence de dérogation espèce protégée, faisant référence au cas de l'outarde canepetière, espèce protégée menacée de disparition. Dans l'attente de l'obtention de cette dérogation, les travaux de construction des réserves de Messé, Mougon et de Saint-Sauvent, qui à ce jour n'ont pas débuté, ne peuvent pas débuter justement. Quant à celle de Sainte-Soline, théâtre de violence, vous vous en souvenez, en mars 2023, actuellement rempli à 60%, la suspension ne fait pas obstacle à l'utilisation de l'eau déjà stockée par les agriculteurs raccordés, mais la cour interdit tout nouveau pompage. Pour Thierry Boudot, le président de la COP de l'eau qui porte ces projets, les agriculteurs de Sainte-Soline ne seront pas privés d'eau cet été. C'est une bonne nouvelle. Écoutez maintenant la réaction mitigé de Régis Ouvrard, délégué territorial de la Ligue de protection des oiseaux de Poitou-Charentes, une des associations à l'origine du recours devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux.
On est satisfait que les aspects biodiversité aient enfin été pris en compte, mais on aurait préféré une annulation purement et simplement de ces réserves, et là on n'a qu'une suspension dans l'attente de l'obtention d'une dérogation espèce protégée.
Cette dérogation est-elle facile à obtenir ?
Alors, elle va être difficile à obtenir, par exemple, dans le cas de la méga-bassine de Sainte-Soline, parce qu'on est en zone de protection spéciale, ce qu'on appelle les sites Natura 2000, et c'est un site qui a été désigné Natura 2000 pour la protection de l'outarde canepetière. Et donc, pour déroger à la protection de cette espèce, il faut que le projet soit d'intérêt public majeur, comme une ligne LGV, par exemple, comme on a connu récemment. Et là, il faut reconnaître que les réserves de substitution, c'est de l'intérêt privé et pas de l'intérêt public. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est l'obstination de l'État à vouloir réaliser coûte que coûte des réserves de substitution, ce qu'on considère, nous, comme un passage en force. Hein, et là, après, ce sera à l'État de prendre ses responsabilités.
Régis Ouvrard, délégué territorial de la Ligue de protection des oiseaux de Poitou-Charentes. La députée de Sévrienne, Delphine Bateau, par ailleurs présidente de Génération Écologie, estime, je cite, que ce jugement est une victoire pour les associations et les défenseurs de la nature. L'État doit prendre la seule décision qui vaille, à savoir l'abandon des projets de réserve d'irrigation, écrit-elle dans un communiqué. Hier soir, quelques heures après ce jugement de la cour d'appel de Bordeaux, une action surprise a été menée par des militants anti-bassines sur le site de Sainte-Soline, rapportent nos confrères de la Nouvelle République. Ils ont forcé l'accès de la réserve. Ils sont restés une dizaine de minutes avant de repartir. Sur le chemin du retour, à quelques centaines de mètres de la réserve, ils sont tombés nez à nez avec des agriculteurs. Le ton est rapidement monté entre les deux groupes et l'affrontement a tourné à la bagarre générale. Les gendarmes sont intervenus pour séparer les protagonistes. Preuve que les tensions sont vraiment loin d'être retombées. Toujours au sujet de l'eau, celle du robinet, maintenant, coûtera plus cher l'an prochain au nord de Sévrières. Mais ce n'est pas tant l'augmentation du prix du mètre cube voté hier soir par les élus du syndicat du Val-de-Loire qui provoque une hausse significative de la facture, mais celle des redevances de l'agence de l'eau Loire-Bretagne qui va impacter les quelques 85 000 abonnés du nord de Sèvres. Les explications de la présidente Dominique Régnier au micro-colline de Jacqueline Pinon.
Oui, une augmentation, certes très modérée malgré tout. Le mètre cube va passer de 1,36€ à 1,38€. Également, une augmentation de l'abonnement qui passe de 79 à 82€.
Mais sur la facture, voilà, on verra beaucoup plus.
Effectivement, il y a quand même une augmentation plus que sensible en ce qui concerne la redevance à l'agence de l'eau. Il y a différentes redevances qui maintenant vont s'appliquer en 2024. sur la facture d'eau, il y avait une redevance pollution, hein, qui était une redevance en fin de compte eau potable, qui était à 0,30 euros du mètre cube. Aujourd'hui, avec l'ensemble effectivement de plusieurs redevances, consommation eau potable, redevance prélèvement, redevance performance du réseau, nous arrivons à 0,42 au lieu de 0,30. Donc il est bien évident que sur la facture de l'abonné, cette augmentation sera très sensible. Ce qui entraînera pour une facture de 120 mètres cubes, qui est la facture type, une augmentation. Alors que nous, syndicats du Val-de-Loire, l'augmentation de notre prix de l'eau est de 2,2%. L'augmentation sera de 7,1% consécutif, entre autres, à l'augmentation des redevances à l'agence de l'eau.
Le tarif industriel augmente quant à lui de 8 centimes d'euros le mètre cube. Maintenir la qualité de l'eau tout en sécurisant les ressources reste le fer de lance du syndicat du Val-de-Loire avec un programme d'investissement qui prévoit 21 millions d'euros de travaux entre 2025 et 2028 avec un reste à charge de 18 millions, précisé le vice-président Roland Morisseau. Parmi les investissements en cours et à venir, le classique renouvellement des canalisations et surtout sur ces deux ans, la construction du nouveau château d'eau de Sensé à Argentenay. Nous y reviendrons avec le directeur du SVL, Sébastien Reynaud. Et après l'eau, eh bien passons aux déchets. Maintenant, puisque il en fut question mardi soir lors du conseil communautaire de l'Aglo de B. C'est le maire de Sirières qui a lancé les débats au détour d'une délibération sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui va subir une nouvelle hausse. Alors que le bocage bressuré se distingue par son efficacité dans le tri, la facture ne cesse d'augmenter, soulignait Jean-Baptiste Fortin.
Moi, je constate dans ma commune que les personnes, à chaque fois, me font remonter que d'année en année, beaucoup de taxes augmentent, et notamment celle-ci sur les ordures ménagères. Et en même temps, ils ne voient pas forcément une amélioration dans ce service. Alors peut-être qu'il y a un souci de communication aussi de notre part sur leur expliquer vraiment le bien fondé de cette augmentation de cette taxe.
Ah, sachant que vous êtes en apport collectif, alors oui. Évidemment, on n'a pas le même service que peut-être à une certaine époque.
Exactement, beaucoup des habitants regrettent l'ancien service en porte-à-porte. C'est pour ça que j'ai posé la question aussi tout à l'heure, si on peut revenir à ce type de service. Visiblement, pour l'instant, non. Mais j'espère bien qu'un jour, on pourra nous permettre de changer ce type de service et qu'au sein de la commune, on puisse avoir un échange avec les habitants pour savoir sur le devenir des apports, s'ils veulent rester sur de l'apport volontaire ou du porte-à-porte.
Il y a donc ce ressenti sur le terrain. Sans nier les augmentations successives, Yves Chouteau et Emmanuel Ménard ont appelé à faire attention aux chiffres. La taxe d'enlèvement d'ordures ménagères étant basée sur les valeurs locatives définies par l'État qui ont bondi sous l'effet de l'inflation. N'empêche que la part fixe de la taxe passera en 2025 à 11,14% pour le porte-à-porte, à 10,61% pour le collectif. Pour la part incitative, comptez sur une augmentation de 10%, soit pour un bac de 120 litres, un enlèvement à 4,18€ contre 3,80€ cette année, le tout pour un produit attendu de 8 133 000 €. L'Aglo de B n'a pas à rougir devant les prix pratiqués, selon son président, Pierre-Yves Marolo, également au micro-colline de Fabien Gazot.
Si on regarde les 8 interco en Deux-Sèvres, je crois qu'à part le coin de Coulonges-sur-Lautise, tout le reste sont bien au-dessus de nous. Donc on a vraiment essayé de limiter au maximum cette année. On est à moins de 3%. C'est toujours trop, c'est vrai. Mais l'augmentation du coût du traitement des déchets est telle aujourd'hui, et c'est pas spécifique à notre bocage, hein, c'est dans toute la France qu'on ne pouvait pas faire autrement pour équilibrer le budget. Moi, ce qui m'inquiète même pour les années à venir, c'est qu'on annonce des augmentations très fortes du coût de la tonne de déchets, et là ce seront des prix qui ne seront pas fixés par les élus de l'agglo, et voilà. Donc après, j'entends ce que Jean-Baptiste a dit, il l'a dit d'ailleurs d'une manière très posée, très claire, j'entends, parce que moi aussi, à Mauléon, je l'entends, hein, les gens disent, oui, on est de bons élèves, mais ça augmente. Mais malheureusement, si on n'était pas de bons élèves, l'augmentation aurait été et serait aujourd'hui encore beaucoup plus forte.
Nous avons eu le tort de dire il y a quelques années, plus vous trierez vos déchets, moins vous paierez, a d'ailleurs estimé à ce propos Emmanuel Ménard, première vice-présidente. L'Aglo de B qui a indiqué sa volonté de soutenir Mayotte après le passage dévastateur du cyclone. Les modalités seront discutées lors du prochain conseil communautaire en janvier, a souligné Emmanuel Ménard, indiquant que la ville de Bressuire, elle est également également voté une subvention exceptionnelle.
Nous allons aller sans aucun doute vers une subvention exceptionnelle du côté de la communauté d'agglomération comme du côté de la ville, parce qu'effectivement les Mahorais comme les Comoriens, mais je reprécise qu'il y a beaucoup de Comoriens qui vivent aussi à Mayotte, donc ce sont des populations qui sont importantes sur le bocage, mais pas que. J'avais au téléphone Bernard Pénaud, maire de Thouars, qui va prendre la même direction. Nous n'allons pas nous bousculer sur le montant, sur la façon de faire. Nous actons déjà le principe de la solidarité que nous allons avoir, parce que beaucoup de citoyens me disaient, est-ce qu'on peut envoyer des vêtements? Non, je crois que pour le moment, c'est une telle urgence là-bas. Tout est dévasté. Donc je crois que pour le moment, ils sont vraiment dans les premières urgences et nous allons nous organiser petit à petit, mais nous serons là avec notre part, Aglo et Ville de Bressuire.
Emmanuel Ménard, maire de Bressuire, qui réunit d'ailleurs son conseil municipal ce soir. La région Nouvelle-Aquitaine a annoncé une aide de 300 000 euros lors d'une conférence de presse donnée à Bordeaux avant le vote du budget cette fin de semaine. Les aides accordées grâce au loto du patrimoine viennent d'être dévoilées. Ainsi, la réfection des communs du château de la Forêt-sur-Sèvre se voit octroyer la somme de 250 000 euros. Contrairement aux éditions précédentes où elles étaient effectuées dans une sorte de grand messe collective, la distribution des instruments aux 120 écoliers de l'orchestre Demos du Thouars s'est déroulée dans chaque commune, presque en petit comité d'une vingtaine d'enfants. Une proximité chaleureuse qui correspond au nouveau mode de fonctionnement, car chaque groupe des jeunes musiciens est censé animer sa propre commune. 5 possèdent un petit orchestre, Saint-Jean-de-Thouars, Cercé, Mosé, Saint-Martin-de-Sanzé et Louzy. Les instruments sont prêtés pour 3 ans par la Philharmonie de Paris. Noël avant l'heure, confirme Pauline Vidot, coordinatrice de la communauté du Thouarsais, au micro-colline de Dominique Hérault.
On a des violoncelles, on a des violons, des altos, les trompettes, les trombones, les tubas, on a aussi des percussions, des clarinettes, des flûtes, des saxophones. Et pour la première année, on a des hautbois. Lorsque les enfants reçoivent leur instrument, c'est un cadeau en fait. Ils sont extrêmement émus, gais, c'est beaucoup d'enthousiasme, d'émotion, parce que ça fait 3 mois qu'ils attendent leur instrument. Donc c'est un moment très gai et émouvant en même temps. Ça coïncide vraiment avec la période de Noël et donc c'est un moment comme un cadeau. Les parents, ils sont ravis, ils sont émus. Surtout, ils sont présents. On a pratiquement toutes les familles pour être avec leurs enfants sur ce moment un peu magique en fait. Donc c'est vraiment super de les avoir.
Considérés comme des cadeaux, ces instruments reviendront définitivement aux élèves s'ils poursuivent au-delà des 3 années d'apprentissage. Ils permettront de progresser avec l'assiduité nécessaire, car cela ne sera pas toujours facile. Pauline Vidot.
Ça va leur apporter beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, tout cet apprentissage et cette découverte. Ça va demander aussi du travail. On n'est pas dans une logique d'échec. Il peut y avoir des enfants qui vont arrêter parce que vraiment ils n'adhèrent pas au projet, mais c'est extrêmement rare. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les progrès qu'ils font. Et le fait qu'ils soient en groupe aussi, c'est vraiment un facteur d'émulation entre eux. Et ils s'entraident aussi. Donc on est sur comment chaque enfant va trouver sa place dans le projet et va progresser au sein de ce projet.
Voilà donc tout l'enjeu, découvrir l'art de la musique pour s'ouvrir l'esprit et progresser intellectuellement. L'instrument désormais en main, c'est maintenant que tout commence. Reportage de Dominique Hérault. Une pièce de théâtre pour clore le Festival des Solidarités en bocage bressuirais, Sans négrier, de Laurent Godet sera en effet donnée ce soir à Bressuire. Mise en scène et interprétée par Claude Laluce, ce dernier a découvert ce texte qui traite de l'esclavage en 2007 avant de se l'approprier 12 ans plus tard. Depuis, le comédien l'a joué 60 fois devant différents publics. Seul sur scène, il incarne plusieurs personnages de cette histoire, histoire que nous livre justement Claude Laluce.
On est face à un second de navire qui devient capitaine suite au décès du capitaine en titre. Et il décide, alors que son bateau est déjà chargé de captifs, hein, on appelait ça du bois d'ébène à l'époque, il décide, plutôt que de partir directement en Amérique, il décide de remonter jusqu'à Saint-Malo pour déposer le corps du capitaine à sa veuve. Et là, il y a 5 captifs qui s'échappent. Il s'ensuit une chasse à l'homme où les instincts les plus bas s'expriment et ils sont pas toujours du côté où on pouvait juger la sauvagerie quelque part.
Est-ce que ce texte est encore d'actualité aujourd'hui selon vous ?
Il est d'actualité toujours dans le sens où je pense qu'on n'a pas fini dans notre histoire de régler les comptes avec le commerce triangulaire et puis le racisme est toujours présent. Or le racisme s'est développé par nécessité sur le commerce triangulaire. Il fallait absolument que ces êtres soient inférieurs.
Sans négrier par Claude Lalu en clôture du festival Sol au studio du théâtre de Bressuire ce jeudi à 20h30, prix libre, réservation conseillée au 06 95 89 21 70. Les amateurs de course à pied ont rendez-vous ce samedi à Courlay pour la 36e édition de la Corrida, un rendez-vous aussi sportif que festif à la veille des fêtes avec un thème disco cette année pour les déguisements. Le départ du 10 km à l'épreuve phare sera donné à 15h. Programme également un 5 km minime et les courses enfants. Entre 7 et 800 participants sont attendus, mais ils seront certainement beaucoup plus. Jean Baudin, vice-président de Courlay Animation, en charge de la Corrida, que nous avons joint en fin de semaine dernière.
Oui, deux sortes de concurrents. En effet, il y a des têtes d'affiche qui jouent le temps et plein d'autres participants qui sont là plus pour se faire plaisir et espérer finir leur premier de 10 km. C'est une distance un petit peu objective pour pas mal de coureurs débutants. Et puis l'idée d'essayer de passer sous l'heure également pour le 10 km, qui est toujours un objectif intéressant à atteindre, oui, pour les différents coureurs.
Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le parcours cette année?
Le parcours reste le même que l'an dernier, c'est-à-dire deux boucles de 5 km. Une boucle de 5 km qui est parcourue par les minimes uniquement. Et puis après, deux boucles pour arriver aux 10 km pour tous les autres participants qui sont nés en 2009 et avant. Et c'est un parcours en ville avec un petit passage de chemin. Il est relativement roulant, mais il y a, depuis qu'on a changé l'an dernier, pas mal de petites relances à plusieurs endroits quand même. Donc il est un petit peu technique quand même.
Une centaine de bénévoles seront mobilisés ce samedi à Courlay. Attention, parce que la barre des 1000 coureurs devrait être atteinte. En l'occurrence, il est fort probable qu'il n'y aura pas d'inscription sur place. Pour y participer, nous vous invitons à réserver au plus vite via Internet.